Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les civils sont de nouveau sous les bombes à Dera au sud de la Syrie. Le régime de Damas et Moscou ont repris hier soir leur offensive contre les rebelles. L'ONU, impuissante, s'inquiète de la situation humanitaire.
Deux Britanniques sont dans un état critique, empoisonnés au Novichok, le même poison utilisé contre un ex-espion russe. En mars dernier, nous ferons le point sur l'enquête dans un instant.
À la une également, un rapport parlementaire alarmant sur la sûreté nucléaire en France. Et puis Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, prend aujourd'hui la tête de Business Europe. En clair, il devient le patron des patrons européens.
Nous reviendrons avec le premier invité des matins de France Culture, l'écologiste Cyril Dion, sur le plan biodiversité annoncé, présenté hier par le ministre Nicolas Hulot.
Un déluge de feu dans le berceau de la révolte syrienne après 4 jours de pause, reprise hier soir des bombardements contre les secteurs encore tenus par les rebelles dans le sud de la Syrie, dans la province de Dera. Les troupes de Bachar al-Assad et leurs alliés russes veulent reprendre ce secteur sensible qui borde la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan en majeure partie occupé par Israël. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Catherine.
Le régime de Damas a déjà reconquis une trentaine de localités rebelles dans la province de Dera avec une stratégie alliant bombardements meurtriers et négociations parrainées par Moscou.
Des négociations que les rebelles ont qualifiées de chantage. La délégation russe avait fixé un ultimatum. Ce mercredi était le dernier jour des pourparlers. Elle exigeait l'abandon par les rebelles de toutes leurs armes lourdes en une seule fois et refusait tout transfert de combattants ou de civils vers d'autres régions insurgées. Pas de négociations sous la menace, ont répliqué hier soir les factions rebelles qui réclament des pourparlers sous l'égide de l'ONU. La réponse du régime syrien et de son allié russe ne s'est donc pas fait attendre. Les raids ont repris 4 localités ont été la cible. La stratégie est toujours la même, forcée par ces bombardements à des accords dits de réconciliation qui ressemblent fort à des capitulations. Car cette province, Bachar al-Assad entend bien la mettre au pas. C'est de là qu'en 2011 étaient parties les premières manifestations contre le régime. Et la communauté internationale a décidé de le laisser en reprendre le contrôle. Les insurgés ont d'ailleurs été prévenus. Les États-Unis n'interviendront pas pour les aider.
Et la communauté internationale, vous en parliez Marie-Pierre, elle se révèle impuissante une fois de plus face à ces combats qui ont fait entre 270 000 et 330 000 déplacés selon les Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit d'ailleurs se réunir en urgence ce matin pour discuter de la situation humanitaire.
Mais en effet, hormis se désoler de la situation humanitaire catastrophique, appeler à la retenue, aux négociations ou à préserver les civils, que peut-il sortir de cette nouvelle réunion ? Déjà le 19 juin, lors de la reprise des bombardements sur ce secteur, qui était pourtant sous cessez-le-feu, au terme d'un accord négocié par la Russie, les États-Unis et la Jordanie, l'ONU et l'Union européenne avaient appelé le régime à cesser ses opérations militaires pour éviter un drame humanitaire. Damas et Moscou n'en ont eu cure. Quelques jours plus tard, l'offensive se durcit. Barils d'explosifs largués par hélicoptère, quartier de Dera, pilonné. Nouvelle réunion de l'ONU le 27 juin qui demande à la Russie de respecter le cessez-le-feu. En vain, nous en sommes aujourd'hui à plus de 300 000 civils déplacés par les combats dans le plus complet dénuement. Ils se pressent aux frontières avec la Jordanie et le plateau du Golan, des frontières qui leur restent fermées.
Marie-Pierre Véraud, merci pour ces explications. Elle avait largement ouvert en 2015 les portes de l'Allemagne aux demandeurs d'asile fuyant la guerre en Syrie. Angela Merkel reçoit aujourd'hui le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, son parfait opposé dans la gestion de la crise migratoire en Europe. Viktor Orban, l'un des artisans de la fermeture de la route des Balkans, il avait refusé d'ouvrir son pays aux migrants au nom de la défense des valeurs chrétiennes de l'Europe. Aujourd'hui, Viktor Orban dit voir un immense succès de ses thèses dans l'évolution de la politique migratoire allemande, durcie sous la pression des conservateurs de la CSU. En France, députés et sénateurs ne sont pas parvenus hier à surmonter leur désaccord en commission mixte paritaire sur le projet de loi Asile et Immigration. Par conséquent, le texte repassera en nouvelle lecture à l'Assemblée à partir du 25 juillet en séance, puis au Sénat, avant une lecture définitive, probablement en septembre prochain. Le gouvernement renonce à instaurer une atteinte sexuelle avec pénétration dans son texte contre les violences sexistes et sexuelles et débattu au Sénat. Un recul salué par les opposants à cette mesure qui craignait qu'elle ne conduise à minorer l'effet de viol. On y revient dans le journal de 7h30. Mais pour l'heure, il est 7h04 sur France Culture. Des installations vieillissantes, vulnérables face à la menace terroriste et un recours dangereux à la sous-traitance. Ce sont les conclusions alarmantes d'un rapport parlementaire sur la sûreté des centrales et des réacteurs nucléaires en France. 5 mois d'enquête, des dizaines de sites visités. Les députés préconisent donc un équilibre entre transparence démocratique et besoin de protéger les installations qui il y ait plus de gendarmes. d'armes, par exemple, dédiées aux centrales nucléaires, que Google Earth, le logiciel, floute les installations pour qu'elles ne puissent pas être vues depuis un ordinateur. Et il préconise également de rendre moins prévisibles les convois de déchets nucléaires par la route ou par le rail. Le ministre de l'Intérieur britannique va tenir une réunion d'urgence ce matin à Londres avec les chefs des services de sécurité et de renseignement du pays, alors que deux personnes sont dans un état critique, intoxiquées au Novichok, à Amesbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à une dizaine de kilomètres de Salisbury, où, en mars dernier, Sergueï Skripal, ancien espion russe, et sa fille avaient été victimes d'une tentative d'empoisonnement avec le même agent innervant au Tsoufi.
À 4 mois d'écart et 10 km de distance, c'est bien le même agent neurotoxique, le Novichok, qui a contaminé ce couple et l'ex-espion russe et sa fille. Pour le moment, la police ne peut pas confirmer s'il s'agit du même lot ou bien si c'est une nouvelle source. Le laboratoire du centre de recherche militaire de Porton Down doit continuer d'analyser les échantillons fournis. Neil Basu, chef du contre-terrorisme britannique.
La priorité de l'équipe d'enquêteurs maintenant est de déterminer comment ces deux personnes sont entrées en contact avec cet agent innervant. Et je peux compter sur une centaine de membres de l'unité antiterroriste travaillant en étroite collaboration sur cette enquête avec leurs collègues de la police du comté de Wiltshire.
Les victimes, un homme âgé de 45 ans et une femme de 44 ans, sont des citoyens britanniques sans aucun lien apparent avec les Skripal. Hospitalisé depuis vendredi à Salisbury, il se trouve toujours dans un état critique.
L'Iran pourrait réduire sa coopération avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est ce qu'a déclaré hier le président iranien Hassan Rouhani après avoir averti Donald Trump des conséquences qu'auraient de nouvelles sanctions américaines contre les ventes pétrolières iraniennes. Hassan Rouhani qui était à Vienne hier, visite suivie par notre correspondante Isorias.
Le président et le chancelier autrichien l'ont tous deux affirmé clairement. Vienne veut renforcer ses relations commerciales avec l'Iran, relations déjà dynamiques. L'an dernier, les exportations autrichiennes vers l'Iran ont ainsi augmenté de 9% et les importations depuis l'Iran de 18,5%. Ce message semble avoir satisfait Hassan Rouhani, car c'est bien ce qu'il était venu chercher, des garanties économiques, la condition pour que l'Iran reste dans l'accord, a-t-il rappelé, car l'économie iranienne, déjà en souffrance, est menacée par les sanctions américaines, des sanctions qui pourraient aussi s'appliquer aux entreprises étrangères, dont certaines autrichiennes, si elles continuent leur commerce avec Téhéran. L'objectif pour l'Iran et l'Autriche était de montrer que les efforts pour maintenir l'accord se poursuivaient, mais il y a bien eu un point de désaccord majeur, Israël. Lors de sa conférence de presse, le chancelier Sébastien Kurz a jugé inacceptable que le droit à l'existence d'Israël soit remis en question. Hassan Rouhani a de son côté répété que le gouvernement israélien jouait selon lui un rôle destructeur dans la région.
Isorias à Vienne pour France Culture. Pierre Gattaz va continuer à défendre sa vision de l'entreprise, mais cette fois au niveau européen, à peine remplacé à la tête du MEDEF en France. Il prend aujourd'hui la tête de Business Europe, une organisation installée à Bruxelles qui regroupe les fédérations patronales européennes et les grandes multinationales. Catherine Pétillon.
Chef d'entreprise, défendons l'Europe, écrivait récemment Pierre Gattaz dans une tribune publiée par l'Opinion, appelant surtout à mettre l'entreprise au cœur du projet européen. Et c'est là le travail d'influence mené par Business Europe, défendre une Europe compétitive et pro-business. À Bruxelles, les grandes entreprises et les représentants des fédérations sectorielles mènent eux-mêmes un fort lobbying direct. Business Europe est une autre manière de porter la voix patronale. L'organisation a pris une place importante et s'est ménagé des accès privilégiés, en particulier à la Commission européenne. Sur la cinquantaine de lobbyistes qu'elle emploie, la moitié est accréditée à la Commission. Ils ont rencontré 200 fois en 3 ans les commissaires et hauts fonctionnaires européens. Côté budget, l'organisation affiche plus de 4 millions d'euros de dépenses de lobbying en 2017. Le message du patronat est avant tout politique, cherchant à influencer les grands axes législatifs, le dialogue social ou certaines directives européennes, comme celle sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Dans la pratique, l'organisation représente surtout de grandes entreprises, estime l'ONG Corporate Europe Observatory, spécialisée dans l'étude du lobbying, et avec un agenda et un message très conservateur, quitte à parfois diviser ses membres.
Nouvelle journée d'audience hier à Créteil, procès pour un cambriolage commis en 2014 par 3 hommes avec des violences et un viol, un dossier où plane l'ombre de l'antisémitisme, Antoine Marette.
Dans cette affaire, on ne juge pas un antisémitisme sélinien, on ne juge pas une idéologie antisémite, personne ne pense que vous êtes des grands penseurs de la judéophobie, ironise Maître Kaminski en s'adressant aux accusés qui semblent s'ennuyer dans leur box. Vous ne vous êtes pas attaqué à des riches, mais vous vous êtes attaqué à des juifs parce que vous pensiez qu'ils avaient de l'argent. L'avocat rappelle les faits, le couple ligoté, bâillonné, mis en joue, jeté au sol, le canon mis dans la bouche de Jonathan, les menaces, le couple séparé et le viol de Laurine. Une heure et demie d'angoisse pour les deux victimes. Au début, Jonathan, ancien gendarme, pense à un cambriolage classique. Puis arrive le moment où il comprend. Il comprend que son père a été repéré parce que juif, avec son rond sur la tête, comme lui dit l'un des agresseurs qui ajoute « On sait que ton père est juif et qu'il a de l'argent ici ». D'un seul coup, l'agression devient un crime des plus odieux, celui qui touche une personne humaine pour ce qu'elle est, analyse l'avocat. Selon lui, l'antisémitisme est omniprésent dans cette affaire. Le repérage de la famille, les symboles religieux cassés dans l'appartement et la référence à la Palestine faite par l'un des agresseurs. C'est une affaire française, un drame français, affirme Maître Kaminski. Il s'adresse alors aux jurés. La France vous regarde. On ne vous demande pas de réprimer un crime du quotidien. Vous jugez l'exceptionnel.
Antoine Marette. Les violents orages qui se sont abattus hier en Nouvelle-Aquitaine ont tué un homme de 64 ans en Corrèze et privé d'électricité 185 000 foyers un peu partout en France. Un mot donc du temps de ce jeudi 5 juillet, toujours instable avec des orages marqués cette fois dans le nord-est de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 15 et 20 degrés en général. Cet après-midi, comptez de 21 à 26 sur une grande partie du territoire, jusqu'à 32 près de la Méditerranée. Olivia Gesbert.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Rendez-vous à 7h30 pour un rappel des titres.